Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Élise Leu. Les anniversaires se suivent et ne se ressemblent pas. Depuis le début du mois, Canal+ célèbre ses 30 ans d'existence dans un mélange de démesure et d'ostentation. Une pure opération de communication transformée en événement culturel. 30 ans, c'est aussi l'âge de SOS Racisme. Mais pour cette autre créature majeure des années Mitterrand, le style fut moins flamboyant. L'anniversaire est passé quasi inaperçu le 15 octobre dernier. Si célébration il y a eu, elle est restée discrète. Alors il faut dire que SOS Racisme est loin désormais de la ferveur juvénile et populaire qu'elle avait su déclencher au moment de l'émergence du Front National. Comme ses consoeurs de la lutte antiraciste, l'association peine à trouver un nouveau souffle, au moins médiatique. Il y a un an pourtant, la réaction tardive mais massive suite aux attaques contre Christiane Taubira laissait entrevoir un sursaut salutaire. On dirait bien qu'en novembre 2014, le soufflet est retombé. Entre-temps, le FN, principale cible de l'antiracisme, est devenu à l'occasion des élections européennes le premier parti de France. L'objectif de son éradication du paysage politique est donc à l'évidence un échec. Et si les actes racistes sont en diminution, le sentiment, lui, augmente. Alors les associations antiracistes sont-elles encore utiles aux causes qu'elles défendent? C'est notre sujet du jour. Et j'ai le plaisir de recevoir quatre invités pour en discuter. Emmanuel Debonneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous travaillez à l'Institut français de l'éducation à l'École normale supérieure de Lyon. On vous doit aux éditions du CNRS en 2012 aux origines de l'antiracisme, la LICA. 1927,
absolument.
1940, voilà, la LICA, il manque pas le R, hein, c'était encore
c'est
la LICA.
Ça, ouais.
Et puis vous tenez un blog hébergé sur lemonde.fr au cœur de l'antiracisme. Pour discuter avec vous ce soir, Faïza Zerouala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous signez des articles pour le Bondy Blog, de temps en temps également d'ailleurs pour Le Monde. Vous vous intéressez, dernièrement en tout cas c'était le cas, aux questions de diversité et de discrimination dans vos papiers. Notre troisième invité, Marc Shepson, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur et ancien directeur de Respect Magazine, qui était un magazine de la diversité, fondé en 2003. Enfin, je dis qui était, il existe toujours, mais sous une autre forme et avec une autre équipe. Vous venez de publier aux éditions Philippe Ray, d'ailleurs et d'ici, l'affirmation d'une France plurielle. C'est un magazine, enfin, mélange de magazines et de livres, les fameux MOOC. J'ai vu que c'était le numéro 1 qui était proposé. Ça veut dire qu'il y a d'autres parutions qui sont prévues
à
venir ?
Oui, on prévoit en fait une édition annuelle et entre-temps, en fait, une vie sur le net par des contenus multimédia, musique, vidéo, témoignages, fiction, puisqu'on est très attaché à la fiction aussi.
Voilà, il y a beaucoup de commentaires, d'analyses, de reportages sur les questions de diversité, sur cette affirmation d'une France plurielle. Notre quatrième invité, c'est Dominique Sopo. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de SOS Racisme depuis 2003, même s'il y a eu quelques mois d'interruption entre 2012 et 2014. Mais enfin, vous êtes à nouveau le président. Vous aviez publié en 2005 chez De Noël SOS Antiracisme, un livre qui était présenté comme une dénonciation des dangers de l'antiracisme bien pensant. C'est en tout cas comme ça, quand on cherche sur Amazon, c'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture. C'était sans doute plus complexe. Je vous avoue que je n'ai pas lu cet ouvrage qui date d'il y a une dizaine d'années. Alors si je vous ai gardé en dernier pour vous présenter, Dominique Sopo, c'était à dessein, parce que c'était avec vous que je voulais démarrer la discussion. Je le disais, 30e anniversaire de SOS Racisme le 15 octobre dernier. J'étais assez surpris finalement de voir à quel point cet anniversaire avait peu fait parler, y compris d'ailleurs sur votre site. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur le site de SOS Racisme. Est-ce qu'il y avait une volonté de discrétion et pour quelle raison?
D'abord parce que nous avons d'autres priorités que de fêter des anniversaires, je dois dire, au demeurant. On n'a pas beaucoup d'habitude de fêter des anniversaires. C'est vrai qu'on avait fait pour les 10 ans et pour les 20 ans, je l'avais fait à l'époque.
Pourquoi pas 30?
Bon, d'abord, je pense que c'est un chiffre moins symbolique, mais bon, la rigueur, c'est vrai que, comment dire, ces dernières années, il y a une grande habitude de faire des anniversaires et des commémorations de plus en plus nombreuses. Mais bon, peu importe. Et le deuxième élément, non, nous avons fait un anniversaire entre nous, si je puis dire, avec des anciens militants et les nouvelles générations de SOS Racisme. Voilà, mais ça n'a pas été spécialement une question qui s'est posée pour nous.
ayant l'esprit mal tourné, comme la plupart des journalistes, hein, c'est pas Faïza Zerwala qui va me contredire, je me suis dit, tiens, peut-être que SOS Racisme n'est pas si fier que cela de son bilan. Quand on voit les rapports qui sont rendus annuellement, j'évoquais celui de la CNCDH, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, rapport donc annuel sur le racisme, celui de 2014 est quand même assez déprimant, j'imagine, pour une association comme la vôtre, Dominique Sopo, puisque 35% des Français dans cette enquête se disent racistes ou un peu racistes. Ils étaient 29% un an auparavant. Est-ce que, quand vous voyez ce genre d'études, vous dites, là, on a manqué quelque chose dans notre mission et dans nos objectifs?
Alors, d'abord, deux remarques. Je pense que les problèmes de racisme, parce que c'est toujours assez étonnant quand on parle des problèmes de racisme, on interroge toujours les associations antiracistes, comme si ce n'était pas un problème de société. Vous savez, quand il y a des problèmes de logement ou des problèmes de pauvreté, on ne dit pas, tiens, mais en fait, Emmaüs, vous n'avez pas un peu raté votre mission? En fait, ça ne viendrait à l'esprit de personne. Mais ce qui est marrant, c'est que des exercices intellectuels que l'on s'autorise pour les organisations antiracistes, en fait, n'existent pas pour les autres. Ce qui est déjà un premier élément. Ce qui ne veut pas dire au passage qu'il n'y a pas d'interrogation à avoir sur l'efficacité de notre action. Je pense que les associations antiracistes ont évidemment beaucoup à revoir de leur méthode en termes de modernité de l'action, en termes de type de discours, sans aucun doute. Et c'est des réflexions que nous avons au demeurant. Mais je permets quand même de noter cette petite bizarrerie du débat public.
Alors justement, je vais faire réagir nos autres invités sur cette question. Il est vrai bizarre, hein, je dois dire que moi-même, en la formulant, je savais bien que ça pouvait être quelque chose, si ce n'est de choquant, mais enfin en tout cas d'un petit peu partiel, si ce n'est partiel. Emmanuel de Bono, est-ce qu'il y a une forme d'injustice à poser aux associations antiracistes la question de leur efficacité, ou plutôt, comme je l'ai
c'est
fait, de leur inefficacité,
hein. C'est pas ce que je dis.
En tout cas,
non, c'est pas ce que je dis. Je dis que quand on parle des problèmes de racisme, on n'interroge que les associations antiracistes, alors que c'est un problème, excusez-moi quand même, de société. Parce que si c'était qu'un échec des associations antiracistes, franchement, ça ne vaudrait même pas un débat, parce qu'en fait, on s'en fiche. Le problème, c'est bien la question que ça pose à la société.
Alors justement, écoutons sur le sujet Emmanuel de Bono.
Je suis assez d'accord. Je trouve qu'effectivement, cette question de l'efficacité ou l'inefficacité, elle peut être posée. C'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, elle a toujours été posée, hein, depuis les origines, dans les années 30, au moment où effectivement naît la première organisation qui était l'ICRA de l'époque. Déjà, il y avait effectivement tout un questionnement sur le bien fondé. Je crois qu'il faut effectivement se garder de l'illusion que ces organisations peuvent seules résoudre un problème qui est éminemment complexe, qui est diffus, qui est polymorphe, et qu'elles sont finalement des acteurs parmi d'autres acteurs, et qu'il y aurait tout autant de légitimité à questionner la culture républicaine et l'État dans ses missions, et notamment celle de l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale depuis les années 60 est sur le terrain de l'antiracisme.
Mais si on se pose la question de cette manière-là, est-ce que ça n'est pas aussi parce que ces associations affichent comme objectif la lutte contre le racisme, et si ce n'est son éradication, en tout cas ça baisse, Emmanuel de Bono?
Oui, elle l'affiche, mais comme d'autres affichent la lutte contre la pollution. Le problème, c'est qu'effectivement, la pollution, on peut la mesurer avec des outils. Le racisme, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus subjectif. Et oui, c'est effectivement... Et je crois que c'est aussi un point d'attaque des ennemis d'antiracisme, d'exiger des résultats qui n'exigeraient pas forcément d'autres organisations.
Faïza Zerwala, voilà.
Moi, je pense que ce n'est pas une interrogation illégitime. Je veux dire, ces associations justifient aussi leur existence par la lutte contre l'antiracisme. Elles se prétendent aussi...
Contre le racisme, pas contre l'antiracisme.
Pardon. Contre le racisme, elles se prétendent aussi être les porte-parole de ces minorités qui sont visées par le racisme. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on questionne leur bilan. Enfin, je veux dire, même si SOS Racisme ne souhaite pas fêter un anniversaire en grande pompe, les 30 ans de l'association, ça amène quand même à se questionner sur qu'est-ce qui a été fait pour justement essayer de juguler un phénomène qui est en expansion nette, d'après les chiffres que vous citiez. Et puis, il y a aussi un sentiment diffus dans la société qui est indéniable.
Marc Jepson, est-ce que ces questions-là, vous les êtes posées à un moment donné de votre vie de militant, puisque c'est une forme en tout cas de militantisme que vous faites évidemment encore aujourd'hui? Est-ce que la réponse que vous y apportez, elle est liée à ce questionnement?
Écoutez, oui, bien sûr, le questionnement, il est inévitable. Je pense qu'il faut quand même différencier le sentiment de racisme et la libération de l'expression et de la parole raciste. Je pense que s'il y a des gens aujourd'hui qui assument le fait de dire « oui, je suis un peu ou beaucoup raciste », c'est peut-être aussi que ce sentiment existait avant, mais qu'aujourd'hui, c'est relativement banalisé de pouvoir dire ce genre de choses. Et là-dessus, je pense que dans les interrogations à avoir, il faudrait aussi poser ces questions aux médias, clairement, aux politiques, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, aussi contribué à cette libération de cette parole. Après, effectivement, il ne faut pas non plus s'absoudre de questionnements, de remise en cause. Moi, je note aussi quand même des faits extrêmement positifs. Faiza, vous avez parlé tout à l'heure finalement, la représentation des minorités, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les minorités, d'abord, se prennent en main, premièrement, qu'elles créent de nouvelles solidarités, aussi inédite, qu'on voit émerger la parole des Noirs de France, la parole des Asiatiques de France, des collectifs contre l'islamophobie, etc. Et que ça, c'est aussi un point très positif de ne pas noyer, sans les isoler les uns des autres, hein, mais de ne pas noyer sur un espèce, je dirais, d'antiracisme un peu moral, quelque part, mais de continuer à pointer ce qui, du point de vue juridique, doit être un rappel à la loi. Rappeler tout le temps que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et là-dessus, je pense que les associations antiracistes ont un rôle important et qu'elles continuent à le jouer. Et par ailleurs, de favoriser l'expression, justement, de ceux qui ne veulent plus être des sujets, des objets stigmatisés, remis en cause, etc., mais qui prennent la parole pour affirmer leur existence, leur créativité, leur force.
Justement, ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le soulignez au début, SOS Racisme a eu son heure de gloire. Aujourd'hui, dans les quartiers populaires, dans les banlieues, où fatalement une partie de la population qui est le plus victime de racisme réside, personne ou presque ne se sent représenté par ces associations antiracistes. Parce que justement, il y a cette prise en main, cette volonté de sortir du paternalisme dont elles ont pu se sentir victimes par justement ces mêmes associations qui prétendaient les représenter.
Mais est-ce que c'est toujours la volonté, est-ce que ça l'a été d'ailleurs, de celle de SOS Racine, de représenter les minorités, Dominique Sopo? Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Ou bien est-ce que vous situez votre action sur un autre axe que celui-là?
D'abord, SOS Racisme, c'est pour ça que je m'étonne des propos précédents, ne s'est jamais présenté comme un syndicat de tel ou tel type de population. Donc il faut connaître un peu l'histoire et les discours des associations pour en faire une critique qui serait peut-être plus sensée. Le deuxième élément, c'est que le rôle des associations antiracistes est de poser la question du racisme dans la société, d'y travailler, de lutter contre, d'éviter ce que disait Marc Chepsoun, à savoir la libération de la parole raciste, ou en tout cas de la pointer systématiquement, malgré des vents extrêmement contraires au demeurant. Et là, je le rejoins, quand on voit la façon dont Éric Zemmour a bénéficié d'une promotion médiatique absolument exceptionnelle, il y a de quoi s'interroger. Et je remarque par ailleurs, de façon plus générale, vous savez, en le 14 juillet 2011, nous avions organisé un concert au Champ de Mars. Il y a eu 1 million de personnes. Ça n'a pas beaucoup intéressé les médias. Or, il y avait beaucoup de gens des quartiers populaires au demeurant qui étaient présents et ne pouvaient pas ignorer que c'était une initiative de SOS Racisme. Donc, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que le discours est un discours qui, de toute façon, systématiquement, et c'est marrant parce que ça a commencé en septembre 85. En septembre 85, Libération faisait sa une sur « Est-ce que c'est pas la fin de SOS Racisme ?» Donc, c'est comme ça une forme de marronnier qui, en fait, est une question vieille de 30 ans. Et par ailleurs, sur la question des quartiers populaires, pour terminer, c'est marrant parce que nous sommes en train de nous réimplanter à nouveau dans les quartiers populaires. Enfin, moi, je reviens après 2 ans d'absence. Et en fait, ça marche très bien. Parce qu'il y a une forte attente des gens, justement, d'avoir des outils pour pouvoir se prendre en main, parce que le but d'une association antiraciste n'est pas de faire du paternalisme, c'est de faire en sorte qu'il y ait une émancipation et un épanouissement des individus et de faire en sorte que le racisme ne vienne plus peser sur leur destinée.
Bon, manifestement, vous n'avez pas tout à fait la même analyse que celle de Faïza Zerwala sur, en tout cas, l'attente peut-être des personnes qui vivent dans les quartiers populaires, mais sur les questions en tout cas de représentation et pour élargir, c'est-à-dire... Là, ce soir, vous représentez SOS Racisme, Dominique Sopo, mais l'idée, c'est aussi de parler de l'ensemble des associations antiracistes. Elles se situent comment, historiquement, Emmanuel De Bono, les associations, par rapport à cette question-là? Il y a la volonté de défendre certaines parties de la population, ben, c'est d'être plus universel, c'est...
Oui, alors c'est, bon, cette question de la prise en compte de la diversité, elle est finalement assez centrale dans l'histoire des organisations. Historiquement, c'est vrai que les débuts de l'antiracisme, c'est autour de la LICA. Donc, il faut souligner qu'il n'y a pas encore le R hein, qui de racisme qui surviendra en 79.
Donc, on est sur l'antisémitisme.
Et la LICA est effectivement extrêmement judéo-centrée. C'est une organisation qui est réformisme, d'un point de vue colonial, mais qui n'est absolument pas anticoloniale. Donc, effectivement, elle prend. Elle a des revendications par rapport aux droits des indigènes. Elle réagit vivement lorsque l'Éthiopie est attaquée, donc effectivement, elle élargit un petit peu son cadre, mais on voit bien qu'effectivement, elle n'est pas encore dans ces problématiques, enfin, elle est très loin des problématiques actuelles. Le MRAP, dans l'après-guerre, le MRAP est fondé par des anciens de la LICA, il est aussi extrêmement judéo-centré, il est très très sioniste, c'est d'ailleurs assez amusant de voir le basculement au fil du temps.
Et puis politisé également. Et également politisé.
Et évidemment, et c'est très très proche du Parti communiste. Hein. Voilà, et de toute façon, effectivement, l'antiracisme en général, c'est une petite parenthèse. Vous avez dit tout à l'heure, Marc, effectivement, l'antiracisme est une. Le racisme est un idéaliste et pas une opinion, mais c'est une formule qui est un petit peu dérapante, parce que, facilement dérapante, puisqu'on peut aussi dire que finalement, l'antiracisme n'est pas un délit et c'est une opinion. Et ça veut dire qu'effectivement, c'est une opinion à géométrie variable. Et on voit bien à travers le temps, ça peut être assez sélectif. Ces organisations, les vieilles centrales, que ce soit la LDH, la Ligue des droits de l'homme, SOS, elles ont effectivement une tendance à englober les populations et à pas vraiment discerner. Il y a ce discours universalisant qui a été effectivement remis en cause parce qu'il semble effectivement insuffisant pour aborder des questions telles que les discriminations. Et on voit bien qu'effectivement, il y a une difficulté. Là, on est vraiment dans un équilibre un petit peu compliqué entre ce respect de la diversité et puis, dans le même temps, le maintien d'un discours sur les valeurs républicaines, sur la culture républicaine et enfin sur la culture de la France. Et voilà, on voit bien qu'il y a des frictions très très fortes.
Ce discours universalisant, il est toujours utile et il est suffisant, Marc Jepson?
Non, je ne le trouve pas suffisant, clairement. Il est utile, oui. Et je pense qu'il faut effectivement créer des passerelles et ne pas isoler les communautés dans des combats qui seraient uniquement spécifiques. C'est important de recréer du lien. C'est très, très. D'ailleurs, pas simplement entre les communautés, mais sur d'autres thèmes, sur la question du sexisme, de l'homophobie, de bien d'autres encore. Mais par contre, je pense que ce n'est pas suffisant parce que il faut pouvoir aujourd'hui aller au fond des problématiques. Et la question, par exemple, de l'islamophobie a historiquement, philosophiquement, des fondements qui ne sont pas les mêmes que d'autres. Pareil sur la question noire, par exemple, sur la question des Asiatiques. Il faut absolument, je pense, favoriser l'émergence de paroles qui pourraient être plus représentatives parce qu'elles correspondront mieux au vécu des gens. Et puis travailler sur la question de la transmission, notamment de l'époque coloniale. Je pense que c'est quelque chose de structurel dans la société française, qu'on l'a très peu travaillé. Et je pense que l'antiracisme n'a pas aussi assez travaillé cette question-là et que là, on ne peut pas agir en profondeur parce que c'est quelque chose de central dans ce qui nous forme collectivement aujourd'hui.
Donc si je comprends bien, Marc Jepson, vous dites qu'il y a différentes formes de racisme. En tout cas, il y a des populations très diverses qui sont victimes de racisme et donc il faut des réponses adaptées à chacune de ces formes-là.
Il faut les comprendre. Il faut comprendre ce qui les structure. Il faut comprendre... Quel est le rapport à l'histoire? Parce que le racisme ne tombe pas comme ça, d'un jour à l'autre, comme ça. Il y a des raisons structurelles. Il y a quelque chose qu'il faut analyser, qu'il faut transmettre, et donc qu'il faut combattre efficacement. Et là-dessus, je pense qu'il faut pouvoir rentrer dans les spécificités de chaque composante.
Faye Dazer, voilà, vous êtes d'accord avec ça. Vous, quand on a préparé l'émission avec vous, vous insistiez justement sur cette montée de l'islamophobie. Pour vous, ça suppose des réponses qui sont adaptées à cette question-là de l'islam ?
Exactement, parce qu'en réalité, quand on parle d'antiracisme aujourd'hui auprès des populations qui se disent victimes de l'islamophobie ou potentiellement victimes d'islamophobie, c'est deux poids, deux mesures.
Elles ne comprennent pas qu'on parle de la même chose ?
Ben, pour elles, il y a une forme de racisme qui va être combattue et l'islamophobie qui, pour moi, est aujourd'hui le corollaire le plus visible du racisme. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on peut dire « j'ai un problème avec l'islam en toute impunité », alors que si on dit « sale arabe » ou « sale noir », c'est un peu plus compliqué. On tombe sous le coup de la loi.
Excusez-moi, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais il y a un sentiment que l'islamophobie décomplexe cette parole raciste, habille la parole raciste. Et du coup, les populations attendent qu'on agisse spécifiquement là-dessus. Et c'est peut-être parce que les associations antiracistes ne se positionnent pas suffisamment ou visiblement sur cette question. Aujourd'hui, on a par exemple le collectif contre l'islamophobie de France qui va recenser tous les actes islamophobes. Mais au-delà, je n'ai pas le sentiment que beaucoup d'associations se saisissent du problème.
Il y a énormément de formes de racisme. C'est vrai aujourd'hui, Dominique Sopour. On parle même d'ailleurs depuis quelques temps d'un racisme anti-blanc. Il y avait eu un procès qui a fait un petit peu parler. La LICRA d'ailleurs avait été impliquée dans ces questions-là. On en avait discuté il y a tout juste un an d'ailleurs dans une émission qu'on avait intitulée, c'était le 18 novembre 2013, « Faut-il muscler la législation anti-raciste ?» Mais donc, différentes formes de racisme qui toucheraient peut-être les Blancs, les Noirs, les Arabes, l'Islam, les Roms. Ce sont les premières victimes de racisme aujourd'hui en France. Comment est-ce qu'on fait quand on est une association comme SOS Racisme pour répondre à ces différentes formes ? Est-ce qu'il faut avoir un message global et seulement global ? C'est compliqué, j'imagine.
Alors, c'est compliqué parce que, effectivement, par rapport à ce que disait Marc Chepsoun, les différentes formes de haine ou de peur par rapport à telle ou telle partie de la population ont des fondements historiques, sociologiques, qui peuvent être extrêmement spécifiques. On voit bien que la question de l'esclavage, par exemple, crée des formes de représentation sur le noir, que la question de la guerre d'Algérie va créer des dynamiques de rejet de l'arabe. On pourra en trouver d'autres, de dynamiques en l'occurrence. On voit bien que l'antisémitisme est fondé non pas sur la différence visible, mais au contraire sur le fait qu'on ne reconnaît pas le juif avec tout un aspect paranoïaque. Donc effectivement, il faut travailler sur ces différents sujets. Mais une association peut le faire en l'occurrence. D'autres peuvent le faire de façon plus spécifique, ce n'est pas une difficulté à mon avis, parce que de toute façon, le but au final est un but qui est commun.
Qu'on le fasse de manière spécifique, ce n'est pas quelque chose qui vous gêne, parce que derrière, il peut y avoir l'accusation de communautarisme, c'est-à-dire aussi alimenter des formes de repli communautaire.
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que, excusez-moi, c'est pas parce qu'on lutte spécifiquement, une association lutterait spécifiquement contre le racisme anti-noir ou contre le racisme anti-arabe ou contre l'antisémitisme que ce serait du communautarisme. Je veux dire, d'abord, il y a une liberté associative quand même pour commencer. Le communautarisme, ça veut dire vouloir couper finalement une population du reste de la population, vouloir faire en sorte qu'elle vive, comment dire, avec des règles spécifiques, etc. On peut très bien marier le fait de s'intéresser de façon pointue à un sujet sans que cela soit une dynamique communautariste. Là, on est dans la malhonnêteté intellectuelle, si on dit ça.
Si je fais référence à ce terme de communautarisme, c'est exprès, parce que Marc Chepsoun, quand vous étiez, je sais que vous n'aimez pas trop rappeler ce passé à Respect Magazine, mais quand même, il y avait une qui avait énormément marqué, qui avait fait beaucoup parler, c'était en 2011, la une 100% noire de France. Et on vous avait accusé, justement, d'alimenter ce phénomène-là.
Oui, tout à fait. On a même suggéré que les associations antiracistes pourraient se retourner contre moi à ce sujet. C'est un hebdomadaire bien connu qui avait suggéré ce...
Mais elles ne l'ont pas fait.
Absolument.
C'était Marianne, l'hebdomadaire. Voilà.
Écoutez, je pense que ça, c'est, je dirais, un des vieux dilemmes, finalement, d'une certaine vision de l'égalitarisme. C'est-à-dire que...
Donc vous n'écartez pas complètement, alors, du coup, ce risque ?
Risque, il faut bien entendu qu'il y a des risques d'enfermement, etc. Il faut bien entendu en avoir conscience. Et moi, j'y réfléchis beaucoup notamment en essayant, vous aviez souligné la question de ce numéro, je rappelle qu'il y avait aussi un numéro juif de France, asiatique de France, etc. Et que on a toujours essayé, en fait, moi dans mon travail, j'ai toujours essayé de ne pas mettre en contradiction le traitement des spécificités et les passerelles entre chacune des composantes. Je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que c'est même tout à fait souhaitable, parce qu'il ne faut pas aller dans l'enfermement. Mais on ne peut pas nier non plus tout ce qu'on vient de dire. En plus de ça, moi je voudrais aussi dire que l'antiracisme ne me paraît pas une cause démodé ou etc. Je pense que ça reste très important.
Et c'est pas du tout l'objet de l'émission hein, que de faire croire ça.
Voilà. Non. Mais par contre, je crois que à un certain moment, il faut aussi porter toute la créativité qui viennent des composantes qui sont elles constamment montrées du doigt, leur créativité culturelle, leur créativité économique. Je parlais de nouvelles solidarités qu'elles créent.
En fait, tu veux dire.
Ben, positiver, en tous les cas, montrer en quoi il y a un vrai potentiel dans nos sociétés qui vient aussi justement de ces minorités et que je pense que d'une certaine manière, elles réinventent l'identité française. Ça peut paraître complètement à contre-courant, mais moi je l'assume complètement. Je crois qu'il y a une force créative absolument inouïe et que la France devrait se saisir de cette créativité.
Il y a une diversité de la société française, il y a une diversité des formes de racisme. Emmanuel Debono, est-ce que c'est un sujet auquel les associations antiracistes aujourd'hui sont confrontées de manière, disons, inédite? Ou bien est-ce que là aussi, c'est peut-être qu'on se trompe quand on imagine que c'est quelque chose de très nouveau et que ça jalonne justement le parcours de ces associations?
Oui, inédit d'une certaine façon, dans la mesure où l'antiracisme s'est d'abord construit historiquement sur le rejet de l'hitlérisme et que l'ennemi, il était d'abord fasciste, il était nazi. Il y a eu évidemment l'épisode dramatique de la Shoah qu'on a remis une couche radicale dans la mesure où effectivement toute l'éducation antiraciste d'après-guerre s'est construite à travers ce prisme de ce drame. Ce drame européen. Et ça, effectivement, induit également des analyses qui n'étaient pas forcément toujours adaptées aux nouveaux enjeux de société, où effectivement, on pensait par exemple que la Shoah pouvait, étant montrée en exemple, pouvait elle seule, finalement, servir de repoussoir, pouvait à la fois, dans sa singularité, mais aussi dans son universalité, avoir une dimension universelle, donnant des clés de compréhension sur les mécanismes inéluctables ou au contraire résistibles. Et alors qu'en fait, non. Et je pense que les populations ont besoin de réponses beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus adaptées.
D'autant qu'il y a aussi une complexification dans le racisme, c'est-à-dire qu'on peut aussi retrouver certaines populations, ça arrive évidemment à tout le monde, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais en tout cas, il y a une étude, par exemple, de la Fondapol qui vient d'être publiée, la Fondation pour l'innovation politique, sur précisément l'antisémitisme. Alors, ils ont mené deux types d'enquêtes, dont une qui a été faite dans la rue auprès de musulmans. Alors, je ne sais pas très bien comment d'ailleurs ils s'y sont pris pour savoir si les personnes interrogées étaient musulmanes ou pas, mais enfin, en tout cas, il en ressort que les clichés, disons, autour des juifs sont beaucoup plus importants en proportion chez les musulmans que dans la moyenne de la population. C'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec des populations qui peuvent être tour à tour victimes de racisme et avoir des comportements racistes. Donc ça, c'est particulièrement compliqué, justement.
Oui, c'est compliqué. Alors, historiquement, on peut trouver des équivalents dans le passé, au moment notamment de la décolonisation, lorsque on a commencé véritablement à parler du racisme anti-blanc, lorsqu'on a parlé du racisme des victimes, le racisme à rebours. Et c'est intéressant de voir que la matrice n'était pas uniquement d'extrême droite. On avait des gens dont l'un des présidents du MRAP à l'époque, Pierre Paraf, la LICRA déjà, enfin la LICA à cette époque-là, justifiait, enfin expliquait qu'il fallait combattre tous les racismes, y compris le racisme anti-blanc. Et on voit très très bien comme cette position soulevait au contraire des oppositions dans les mêmes termes, d'ailleurs qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est une imposture, etc. Les dominés ne peuvent pas à leur tour développer des sentiments racistes, etc. Il y a effectivement une difficulté un petit peu à s'émanciper de ce schéma finalement assez assez monolithique où forcément le racisme serait, s'imprimerait du haut vers le bas, alors que effectivement, oui, il existe des formes de racisme des victimes. Il faut bien les nommer d'une certaine façon. C'est quasiment binaire lorsqu'on dit à quelqu'un sale blanc ou sale. Voilà. Après, en faire un mouvement, un phénomène de masse, c'est un autre problème. Et on sait très bien que le FN dit que c'est le premier racisme auquel on assiste en France. Mais voilà, ça c'est un autre. On voit bien comme ça peut être récupéré de manière excessive.
Deux cent mille, trois cent mille, quatre cent mille, il y avait en tout cas un monde fou toute la nuit, place de la Concorde à Paris, pour la grande fête de SOS Racisme. Pratiquement tout le monde arborait la petite main désormais célèbre « Touche pas à mon pote » autour d'un podium géant qui ne ménageait ni les kilowatts de lumière ni les décibels de son. L'ambiance était joyeuse, sans retenue. Les incidents qu'on avait pu craindre n'ont pas eu lieu au milieu de cette foule tout à fait enthousiaste.
Alors Dominique Sopo, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais moi quand j'ai pensé grande mobilisation antiraciste, j'ai d'abord pensé non pas au concert de 2011 que vous évoquiez tout à l'heure, dont je dois dire, alors j'ai totalement oublié l'existence, mais le concert du 15 juin 1985, place de la Concorde à Paris, avec notamment Bachung qui avait un peu chanté la chanson emblématique de SOS Racisme. Comment est-ce que vous expliquez que les associations antiracistes n'arrivent peut-être plus justement à mobiliser, ou en tout cas à démontrer qu'elles sont encore capables de mobiliser?
Excusez-moi, vous savez, quand on fait un concert de 1 million de personnes en 2011, je veux bien qu'on dise qu'on n'arrive pas à mobiliser, mais en fait, c'est 1 million de personnes, c'est-à-dire à peu près deux fois la Concorde.
Mais qu'est-ce qui fait que je ne m'en souvienne pas, moi? C'est que j'ai mauvaise mémoire
ou ce qui fait que vous n'en souvenez pas, c'est qu'en fait, les médias n'ont absolument pas couvert cet événement, ce qui est quand même assez étrange. Vous savez, il y a des preuves, photos, vidéos.
Ah, je ne sais pas en doute, l'existence de concert.
Sur France Télévisions, donc voilà. Donc, bon, voilà, donc c'est là, pour le coup, ce serait une question qui serait à poser également aux médias. Mais je pense qu'il y a aussi quand même un phénomène aujourd'hui assez généralisé qui est qu'on est dans un pays dans lequel il y a quand même un peu un effondrement d'un imaginaire de la fraternité. Finalement, c'est quoi « touche pas à mon pote » ? Quand on dit « touche pas à mon pote », c'est-à-dire qu'on reconnaît l'autre comme son frère. Quand on reconnaît l'autre comme son frère, on est d'accord pour se lancer dans des logiques d'égalité. Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit bien à travers toute une série d'individus qui émergent et qui envahissent un peu les médias, il y a une lutte acharnée contre cet imaginaire de la fraternité, une peur sans doute des phénomènes de changement de ce qu'est l'identité française, parce que oui, en France, il y a des gens qui sont musulmans, par exemple, c'est comme ça, et c'est pas un drame pour le pays, me semble-t-il, bien au contraire, et qu'il y a aujourd'hui des crispations extrêmement fortes qui font que finalement, vous savez, pour vouloir qu'il y ait un mouvement qui existe, pour vouloir qu'il y ait un mouvement qui soit vu de façon positive, encore faut-il qu'on pense que ce mouvement est positif. Or, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il soit si évident que cela, que l'imaginaire de la fraternité, que les logiques d'égalité soient si positives que cela. Et d'ailleurs, je terminerai sur ça, je vois bien, quand on parle d'antiracisme très fréquemment, avec toute une série de personnes, c'est « oui, non, mais c'est très bien l'égalité, mais quand même, les musulmans ou les noirs, etc., ils sont pas un peu antisémites, ils sont pas un peu contre l'égalité entre les hommes et les femmes, ils sont pas un peu en train de redessiner la France et finalement basculera dans une France qui n'est plus une France, comment dire, à laquelle on croit et dans laquelle on veut vivre. » Et je pense que là, on est sur quelque chose d'extrêmement pernicieux, parce que c'est dans une forme de non-dit.
Mais est-ce qu'il ne faut pas accepter justement d'en débattre de ces questions-là plutôt que de les condamner? Parce que c'est aussi ce qu'on reproche aux associations antiracistes. De condamner ce genre de discours, de débattre de ces questions, de se dire peut-être oui, effectivement, prenons les choses directement, considérons peut-être que oui, l'islam est peut-être un problème pour la France, que ça pose peut-être des problèmes à l'identité française. Est-ce que c'est justement pas ça qu'on reproche beaucoup aux associations antiracistes, c'est-à-dire de finalement utiliser, et c'est par exemple ce que dit, on ne l'a pas encore cité dans cette émission, c'est Pierre-André Taguieff, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes méthodes de discrédit par rapport à l'adversaire qu'utilise celle des racistes. C'est-à-dire on discrédite le racisme, donc on éteint toute possibilité de débat.
Bah, écoutez, vous savez, il y a un moment, on en a débattu, ça s'appelait les débats sur l'identité nationale, que le gouvernement a dû annuler en catastrophe au regard de ce que cela donnait. Qu'il y ait des débats, notamment fondés sur le fait de laisser émerger des passions dans certains cadres, etc., moi j'y suis tout à fait favorable, mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Excusez-moi, quand Zemmour vient expliquer, parce que c'est ce qu'il dit, qu'en fait il est contre l'égalité, excusez-moi, là, on n'est pas dans le domaine du débat, on est dans le domaine du combat.
En général, il y a quand même un contradicteur face à Zemmour. Non, je vous voyais réagir, c'est Emmanuel de Bono et Félix Zemmour.
Excusez-moi, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas forcément des contradicteurs face à Éric Zemmour.
Je disais en général, ça ne voulait pas dire que c'était dans la totalité des cas. Bon, bref, on n'est pas sur une émission sur Éric Zemmour, d'autant qu'il n'est pas là. Non. Emmanuel de Bono et ensuite Félix Zemmour, voilà.
Non, juste effectivement préciser qu'il y a, je crois qu'il y a une exigence sémantique qui doit vraiment motiver les organisations, qu'il faut vraiment se méfier des anathèmes, il faut se méfier de la mise au pilori que permet assez facilement aujourd'hui les réseaux sociaux, et que ce qui est souvent reproché aux associations antiracistes, c'est de faire de la simplification, de l'amalgame à 140 signes et de pas laisser beaucoup d'échappatoire à une personne sur laquelle s'abat soudain la foudre divine, et de manière assez indistincte, qu'elle ait tenu des propos absolument radicaux et abominables, ou des propos où, comme dans le cas d'une affaire récente autour du football, on a parlé de racisme inconscient. Et c'est vrai que si ce racisme-là est inconscient, peut-être que sortir ce moyen extraordinaire qu'est la justice pour combattre quelque chose qui semble effectivement être un racisme banal grave, et je pense qu'effectivement une faute appelle une sanction, mais si on sort la grosse artillerie, qu'est-ce qui reste après pour dézinguer les pires négationnistes ou les autres. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un problème de ciblage et d'ajustement et de graduation.
Je voudrais pas passer pour une provocatrice, mais il me semble que l'anecdote du concert est assez révélatrice du fait que les associations antiracistes sont démunies face aux outils. Parce qu'on parle quand même d'un concert. Je veux bien, j'aime beaucoup la musique, j'ai pas de problème avec ça. Mais en quoi un concert, même qui rameute 1 million de personnes, va permettre de travailler en profondeur sur cette libération de la parole raciste dans la société? Je pense que en 85, c'était très bien pour montrer que tout le monde était réuni autour de cette lutte. Mais en 2011, est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens, effectivement, tels que...
Tels que quoi, par exemple, Faisazir, voilà, vous nous expliquiez en préparant l'émission que, alors, vous avez écrit des articles cet été, je crois, notamment sur les manifestations pro-palestiniennes. C'était pendant le conflit à Gaza, et que vous avez été en retour l'objet d'insultes assez graves qui auraient peut-être pu mériter que vous portiez plainte, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'êtes pas retourné, par exemple, vers ces associations. Pour quelle raison vous ne l'avez pas fait?
Parce que
là, il y a des actions concrètes qui auraient pu être menées. On n'est pas dans le concert, là, on est dans quelque chose de tout à fait tangible.
Évidemment, mais après, pour moi, je ne me vois pas m'en remettre à une association pour expliquer que je suis victime d'insultes racistes, parce que, à mon sens, les réseaux sociaux, ça reste quand même un immense défouloir. Ça valait peut-être pas d'en faire plus que ça n'est.
Un tout dernier mot, Emmanuel de Bono, on est déjà à la fin.
Très rapidement, dire qu'effectivement, dans les années 30, il existait à Paris une association qui s'appelait le Club du Faubourg, où des militants antiracistes juifs combattaient des antisémites. Il y avait vraiment des débats contradictoires. La salle se tenait, il y avait évidemment des échanges assez vifs. On a peut-être perdu ce goût, ce défi de la contradiction du vrai débat, sans immédiatement réduire son adversaire à un hitlérien, etc. Et c'est peut-être effectivement ce type d'espace de liberté qu'il faut retrouver et que les associations pourraient favoriser.
Un tout petit mot, mais vraiment, oui ou non, Marc Jepson ou Dominique Sopo, par débattre avec Éric Zemmour, pour vous, ça serait possible ou totalement exclu?
Pas intéressant. Clairement, la France change. Donnons de la parole à ceux qui, finalement, portent la force de ce changement. On est quand même dans une époque aussi très violente. Je voudrais quand même citer l'exposition qui va bientôt se tenir, Exhibit B, qui remet en scène un zoo humain, par exemple. Et signaler qu'il y a aussi des collectifs qui se battent contre ça pour faire changer les mentalités, pour faire bousculer tous les stéréotypes. Montrons aujourd'hui la force de notre pluralité et sa richesse.
Dominique Sopo, vraiment d'un mot.
Je pourrais très bien débattre, ou plutôt combattre Éric Zemmour sur un plateau de télévision. Ceci étant, qu'on ne le présente pas comme un intellectuel peut-être, parce qu'un intellectuel ne joue pas simplement sur les mauvaises passions, il essaye d'élever le débat. Un débat, il faut l'élever. Et les raisons, les arguments contradictoires peuvent très bien s'échanger sans aucun problème.
Donc c'est plutôt un vrai débat. Voilà, donc c'est plutôt non.
Si c'est un vrai débat, si.
Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à l'émission.